c'est la reprise de Table Ovale sans ellipse. Table Ovale sans ellipse, comme depuis un grand nombre d'années, régulée par Claude Devezin. Et aujourd'hui, avec les représentants des partis politiques du Modem, Bernard Cazalès et Bruno Leleu pour le Rassemblement National. Pendant les cinq dernières années, l'adénome du centre qui avait frappé l'Assemblée nationale avait quasiment fait disparaître les partis politiques, et Table Ovale qui les réunit pour que nous les entendions parler entre eux, débattre entre eux de leurs idées et de leurs souhaits, avait été relativement suspendu. Ça a été assez sporadique, même si, en revanche, CFM a toujours été présent pour toutes les élections. Donc, à présent qu'il y a eu 12 candidats parrainés, quand même, à l'élection présidentielle, et qu'il y a maintenant 10 groupes à l'Assemblée nationale, nous devrions pouvoir rassembler des partis politiques et les faire débattre entre eux, puisqu'à CFM, on tient à ce que ce soit les partis qui s'expriment, et en aucun cas... Moi, je suis au milieu de la table et il s'agit justement que leurs idées soient éprouvées à l'épreuve du débat. Et le premier sujet que nous avons choisi aujourd'hui pour cette reprise, et avec l'accord des participants, on en espère davantage dans les prochaines fois, c'est une mise en route. Donc les deux participants, je rappelle le Rassemblement National et le Modem, c'était déjà les partis politiques. Partis politiques dont je rappelle qu'ils sont dans la Constitution. Elle prévoit que c'est eux qui organisent la vie politique du pays et ils ont un certain nombre de choses à faire au titre même de la Constitution. Donc leur disparition, c'est une atteinte à la Constitution. Alors déjà, d'où viennent-ils ces partis politiques ? Et on a autour de la table des représentants de partis anciens, même si le Rassemblement National n'a que 50 ans, mais le Modem a des aïeux qui proviennent de la Libération et même de bien avant. Donc déjà, quelle est l'origine des partis politiques en général, et bien sûr en particulier des vôtres, Monsieur Leleu, pour le Rassemblement National?
Alors effectivement, le Rassemblement National a fêté ses 50 ans la semaine dernière. L'origine de notre mouvement, ça a été créé par Jean-Marie Le Pen, hein, qui était un peu décrit comme le Ronald Reagan en 1972, avec un programme beaucoup plus libéral qu'aujourd'hui. Hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jean-Marie Le Pen, il avait pointé quand même du doigt depuis 1972 des problématiques...
Plus libéral que ce qu'est le programme du Rassemblement National.
En termes économiques, tout à fait, plus libéral aujourd'hui. Et il allait pointer du doigt et expliquer que différents phénomènes qui arrivent aujourd'hui et qui sont au centre de l'actualité et au centre de la vie politique, l'immigration, le problème des problèmes qui arrivent en France, hein, l'immigration, la délinquance, j'en passe, c'est des meilleurs. On va dire que réellement le Rassemblement National aujourd'hui, il y a 2012, c'est-à-dire que quand Marine Le Pen a pris les rênes de notre mouvement, on est rentré dans une phase entre guillemets que les médias appelaient la dédiabolisation, hein, avec deux jambes, si je peux me permettre, une jambe beaucoup plus sociale, avec un État assez fort qui s'occupait effectivement de son peuple, et une jambe beaucoup plus régalienne, ce qui nous a permis d'avoir, qui nous permet derrière d'avoir un certain équilibre au niveau politique. Vous me parliez tout à l'heure de l'Assemblée nationale, et on l'a vu dernièrement. C'est vrai qu'en 2017, quand Emmanuel Macron a été élu, en disant je ne suis ni de droite ni de gauche, en réalité c'était le pire de la droite et le pire de la gauche, en vaporisant derrière l'Assemblée nationale, effectivement il y avait des députés godillots qui appuyaient sur un bouton, et je ne suis pas certain que le débat ait...
Alors on reviendra tout à l'heure sur le fonctionnement et l'utilité, mais je voudrais revenir sur l'origine. Monsieur Canal, pour le Modem, l'origine de ce parti, est-ce qu'il y a un philosophe, une doctrine ?
Oui, bon, je crois d'abord le Modem lui-même a été fondé par François Bayrou en 2007. Mais évidemment, c'est un parti qui est l'héritier des partis centristes en France depuis de nombreuses années, puisque... On peut dire qu'auparavant, il y avait eu l'UDF, il y avait eu le centre
des
démocrates sociaux, et puis le MRP, à la sortie de la guerre. tout ceci étant quand même des héritiers de, du sillon de Marsannier, un petit peu. Hein. Donc, c'est, je pense que ça fait partie de l'origine profonde de notre groupe. Et si nous n'avons pas voulu être absorbés et si nous avons voulu justement préserver notre mouvement, c'est surtout pour préserver ses valeurs. Je rappelle que nous avons été un des rares partis à ne pas avoir voté les... Enfin, le maire, à l'époque, le parti centriste n'a pas voté les pleins pouvoirs à Pétain. Donc, je pense que tout ça, ça fait partie de notre histoire que nous avons encore aujourd'hui à faire vivre. Et ces valeurs d'humanisme, de démocratie, issues de la démocratie chrétienne, avec un volant essentiellement social, ont préservé la défense des valeurs et de l'aide aux plus faibles, la solidarité, etc. Et je crois que c'est resté quand même un facteur important. Sans oublier, une des caractéristiques propres de notre mouvement, parti, c'est la défense de l'Europe. Puisque
de l'Union européenne, de pas l'Union, l'Europe.
L'Union européenne,
si vous voulez. On a toujours été européen, si je peux me permettre.
Oui, mais je pense que ce qui nous différencie profondément avec vous, c'est quand même notre vision de l'Europe, de l'organisation de l'Europe entre les pays. Voilà. Mmh. Donc l'Europe politique que nous avons toujours soutenue. Mmh. Et aujourd'hui, nous sommes quand même... on s'aperçoit que c'était vraiment une nécessité. Mmh. Puisque même vous, aujourd'hui, vous vouliez sortir de l'Europe, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, je crois.
On veut changer l'Europe de l'intérieur. Ouais, vous avez quand même oublié dans votre parti, vous êtes également la béquille d'Emmanuel Macron.
Bon, c'est plus qu'une béquille. Hein.
D'accord. La jambe de bois, peut-être
Ou
le fardeau, aujourd'hui, puisque candidat, c'est, j'ai cru entendre, qu'elle allait se présenter en 2027.
Oui, bon,
L'ERA quitte le navire.
Ça, c'est une affaire de journaliste hein, qui voulait le lui faire dire, mais à François Bayrou. Mais je pense que, il faut, de toute façon, on est dans la Ve République, on a besoin d'avoir de leaders qui incarnent une possible candidature à la présidence de la République. Alors, même si aujourd'hui, son âge est un handicap pour l'affronter, il ne peut pas dire qu'il ne peut pas l'être, puisque de toute façon, le propre même d'un parti politique, c'est d'accéder au pouvoir pour défendre ses propres idées et les faire valoir. Et ce que je veux dire, c'est que François Bayrou... On ne peut pas dire que ce soit une béquille de Macron. Il a soutenu... Enfin, notre parti a été à l'origine de l'élection de Macron en 2017. Mmh. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu la volonté de notre parti de soutenir Emmanuel Macron, il aurait manqué les pourcentages de voix qu'on représentait.
On est totalement d'accord. C'est pour ça que je vous dis que ça a été un soutien et une béquille aujourd'hui.
Je voudrais revenir, juste pas très longtemps, sur l'origine, et je me tourne à nouveau vers le Rassemblement National, Monsieur Canal nous a parlé de Marc Sornier, il aurait pu nous parler de la Cordère encore avant.
Je peux vous parler de Poujade, de Tixier-Bélancourt, il y a eu des gros...
Oui, mais là on reste dans la deuxième partie du XXe siècle. Or, il me semble que, j'en sais rien, c'est à vous de me le dire, mais il y a peut-être des racines plus anciennes.
Alors, je connais pas les racines plus anciennes. C'est-à-dire que moi, j'ai adhéré au Rassemblement National en 2012. Je prends le passé avec, hein, c'est-à-dire que je renie rien. Et je prends le passé et surtout le présent et l'avenir. Le mouvement Gaulle est écrit en 72, effectivement.
Le Clovis à De Gaulle.
Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Le mouvement Gaulle a été créé en 72, effectivement, il y avait des gens qui avaient été élus, et c'était le cas Jean-Marie Le Pen en tant que député sous Poujade, hein, qui était dans le Lot.
Il y avait
Tixier-Billancourt en 68, je crois, qui s'était présenté à la présidentielle et Jean-Marie Le Pen était son directeur de campagne. Je vous dirais qu'aujourd'hui, l'essence même du Rassemblement National, parce que le Rassemblement National, le Front National, de 72 et Rassemblement National de 2012 n'a plus rien à voir. On va dire qu'aujourd'hui, le Rassemblement National de Marine Le Pen a vraiment été créé aujourd'hui en 2012. On a gardé le nom, effectivement, c'est la fille de Jean-Marie, mais c'est deux partis totalement différents. C'est deux visions totalement différentes de faire de la politique. Auparavant, Jean-Marie Le Pen faisait de l'excès dans ses propos et ne voulait pas le pouvoir. Et vous, c'était simplement aujourd'hui le poil à gratter, et on l'a vu à partir de 84, de la République. Aujourd'hui, nous sommes en capacité, et nous l'avons prouvé lors des dernières élections présidentielles, hein, c'est quand même deux fois que nous finissons, nous sommes au second tour et nos scores progressent, et avec 89 députés, nous sommes le plus gros groupe d'opposition aujourd'hui à Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale.
Alors sur la nature, ce que sont effectivement, Monsieur Leleu vient de nous dire ce qu'est aujourd'hui le Rassemblement national, et sur la nature de ce qu'est aujourd'hui le MoDem, vous nous en avez un peu parlé, Monsieur Canal, mais quelle est effectivement donc sa place en parlant de son origine. Vous nous avez un peu parlé de sa place aujourd'hui, mais je voudrais vous entendre à nouveau sur la nature profonde du MoDem d'aujourd'hui, cette fois.
Bon, aujourd'hui, le mouvement démocrate affirme ses valeurs par rapport à l'Europe. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que c'est une caractéristique de notre mouvement aujourd'hui. Et c'est pourquoi une des raisons pour lesquelles nous avons soutenu la candidature d'Emmanuel Macron, puisque lui-même incarne ces valeurs de cette construction européenne, de solidarité européenne, qui aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle est nécessaire à notre avenir, avec la guerre à l'Ukraine, avec ce qui se passe, avec, on a bien vu avec le Covid, avec la crise sanitaire. Ce qui a pu se passer.
On a vu que tout s'est bien passé, on l'a vu, hein. Il n'y a aucun problème, tout s'est bien passé.
Non, mais au niveau des conséquences économiques pour nos pays, ça s'est plutôt bien passé. On ne peut pas dire que ça a été la grosse catastrophe. Les banques centrales, les pays européens se sont entendus pour financer la dette Covid. S'il n'y avait pas eu ce financement de la dette Covid, je pense que nous serions aujourd'hui dans une autre situation beaucoup plus difficile. Bon, même si aujourd'hui
c'est très compliqué.
C'est très compliqué.
On n'a plus d'essence, on fait des queues pour retrouver de l'essence, il n'y a plus de moutarde dans les supermarchés. Oui, c'est vrai que ça fonctionne très très bien à l'Union européenne. Laissez-moi vous dire.
Là, ça n'a rien à voir avec l'Europe.
Je me sens très européen. Nous avons toujours été européens depuis les Romains. Le problème, c'est que vous êtes des européistes gaga. Avec des gens qui sont la tête de cette institution et qui n'ont jamais été élus démocratiquement, hein, et qui ont une vision d'entraide, effectivement, mais pas d'entraide aujourd'hui pour le peuple européen, d'entraide pour l'extérieur. L'idéologie aujourd'hui de la présidente de l'Union européenne est totalement baba. On a bientôt des élections, vous verrez que les Français et même les Européens, parce qu'on n'a jamais été contre l'Europe, on est aujourd'hui contre ce système européen qu'on changera, je souhaite, hein, aux prochaines élections de l'intérieur, et nos scores le prouvent, hein, en France nous sortons toujours premier au niveau de ces élections, et je suis convaincu qu'aujourd'hui on peut changer de système de l'intérieur, avec des alliés. Nous sommes aujourd'hui le premier groupe d'opposition également au PPR, le parti auquel vous appartenez, hein, au niveau de l'Union européenne. Et aujourd'hui, cette vision mondialiste, soumise à l'OTAN, effectivement d'entraide, où on va aider tout le monde et n'importe quoi. Pensons à nous, moi je suis un vrai souverainiste, c'est-à-dire qu'il y a une phrase, on parlait d'ailleurs du passé, il y a une phrase de Jean-Marie Le Pen qui dit toujours « Je préférais toujours ma fille à ma cousine à mon voisin et mon voisin à des étrangers ». Aujourd'hui, à vouloir faire plus blanc que blanc et aider tout le monde, monsieur, il y a des gens qui souffrent, et je peux vous en parler, parce que je ne fais pas de la politique comme un métier. Je rencontre des gens en longueur de journée, et on ne se rend même pas compte aujourd'hui. Et je vais vous parler de l'Aveyron, qu'il y a des retraités aujourd'hui qui meurent de faim. Et heureusement qu'ils ont un petit bout de jardin pour manger quelques légumes et quelques voisins solidaires avec un morceau de cochon qui est donné de ces moments célibataires. Et aujourd'hui, nous sommes dans cet agglomérat d'Union européenne qui fait des lois mais totalement utopiques. Alors je veux bien entendre que derrière, au niveau des vaccins, qu'ils ont tout négocié. J'ai pas trouvé que la campagne de vaccination était bonne. Vous avez même parlé aujourd'hui de l'industrie. On a pu voir qu'il manquait des masques. À force de vouloir faire de la France une ville touristique, nous n'avons plus d'industrie, nous n'avons plus rien. Et voilà votre vision de l'Union européenne. La vision était noble dès le départ, hein. La vision de l'Union européenne avec Giscard qui a fait la Constitution était très noble. Le problème, c'est qu'on en a fait n'importe quoi.
Alors cela étant,
je voudrais réagir par rapport à l'Europe, parce que bon, il y a des côtés négatifs, parce que c'est difficile de composer à 27. Bon, c'est clair, c'est une vraie difficulté de s'organiser à 27. Mais bon, on le voit, dans toute organisation humaine. Quand on est plusieurs à vouloir partager, forcément, il faut faire des compromis à des moments. Donc, on ne peut pas être à 100%. Alors, lorsque vous parlez de la désindustrialisation de la France, ce n'est pas nécessairement l'Europe. Hein. La preuve, c'est que l'Allemagne est restée un pays industriel.
Bien sûr, bien sûr. Hein, mais...
et avec de bonnes relations avec la France. Donc, ce n'est pas... Moi, écoutez, il y a le côté... ce matin, par exemple, j'étais au marché de Barneville et j'ai vu des enfants qui se promenaient avec des panneaux, avec les drapeaux de tous les pays européens et qui nous faisaient la promotion de Erasmus. Bon, voilà quelque chose qui fait
vivre l'Europe. Tout à fait. Bon, voilà. Mais le problème, tant qu'on n'aura pas les mêmes salaires, la même fiscalité, les mêmes normes de partout, et on peut parler du bio par exemple, où en France nos agriculteurs sont sous des normes et des charges énormes, et derrière l'Union européenne, c'est autre chose. On peut parler du Mercantour, des traités qui sont signés, où on va chercher des choses partout. Votre Union européenne est totalement.
Laissons finir, monsieur Casals, et puis après, révolue. Je voudrais qu'on revienne sur les partis français.
Mais sur le débat sur l'Union européenne, et c'est important. Monsieur Leleu dit les agriculteurs. Moi, je suis un ancien agriculteur retraité. Enfin, je suis retraité et je suis un ancien agriculteur. Et j'ai toujours défendu l'Europe en tant qu'agriculteur. Et je puis vous dire que l'agriculture s'est bien défendue grâce à l'Europe. Aujourd'hui.
Avec la PAC.
Bien, bon, la PAC, elle est critiquable. Non, mais attendez, la PAC, elle est aujourd'hui critiquable. Dans ses évolutions. Mais elle permet une aide aux agriculteurs qui, sans celle-ci, ils n'existeraient plus.
C'est qui paye ces subventions, monsieur ?
Alors, les subventions...
Elles viennent de la France. Hein. Je ne sais plus combien on donne et combien on redistribue. On est même déficitaire là-dessus. Marine Le Pen avait proposé en 2017 de changer la PAC à la PAC. Si vous êtes un ancien agriculteur, réellement, je crois que l'agriculteur aujourd'hui a besoin d'être rémunéré au juste prix et n'a pas besoin d'aide pour travailler. C'est-à-dire qu'il était rémunéré au juste prix pour le fruit de son travail et sans aide, ça irait beaucoup mieux.
Non mais
réellement.
Sur le sujet, on peut être d'accord. Hein. Moi, j'étais syndicaliste agricole. Et je vous assure que quand on a vu les décisions qui ont été prises, qui nous ont concernés pour faire des aides directes, nous étions complètement opposés à ça. On préférait le système d'avant, mais qui était toujours aussi un système européen qui garantissait des prix et avec des volumes et des systèmes de quotas. Nous, on était partisans de ça, mais c'était européen. C'était une décision européenne. Elle a mal tourné.
Ça a bien changé quand même.
Mais elle a mal changé parce qu'il y a d'autres pays qui sont rentrés, etc.
L'élargissement. Et encore, l'élargissement. Je crois que vous voulez en faire rentrer la Turquie, non, également mouvement.
Pas nécessairement, non.
Bayrou s'était porté
Pardonnez-moi, mais j'ai toujours entendu Bayrou être opposé à l'entrée de la Turquie.
Oui. Non.
C'est Macron, mais bon, maintenant, Bayrou...
Oui,
Macron,
peut-être, mais écoutez, c'est la même chose, je n'en sais rien. Bon, peu importe.
Même au niveau de l'emploi, l'Union européenne, aujourd'hui, c'est en France, on a une concurrence déloyale. Monsieur Devezin, ça va le faire sourire. Vous prenez le cas de la RN88, vous savez, celle qui va de Rodez à Albi, qui a été prise au départ au niveau des marchés publics par une entreprise espagnole. Au départ, hein, elle n'est pas française l'entreprise, la toute première tranche. Si on avait mis là-dessus une clause environnementale, je dis bien simplement une clause environnementale, les emplois et les entreprises auraient été alors du département ou de la région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ces marchés publics européens, nos entreprises n'ont plus les reins solides et les moyens de travailler et tout est au détriment des grands groupes européens. Alors, je ne veux pas être le vassal ni être une province de madame de l'Allemagne. Aujourd'hui, la France a aussi son mot à dire et il va falloir penser à nous avant de penser aux autres.
Monsieur Leleu, j'ai été précédemment président d'une société d'exportation véronaise qui s'appelait Bevimac. Et dont la principale activité, c'est l'exportation d'animaux maigres sur l'Italie.
Oui, tout à fait, les broutards. Aujourd'hui,
j'ai des broutards. Eh bien, écoutez, ça fait bien...
C'était vraiment
l'incarnation même de l'Europe concrète, réelle.
De l'Union européenne, oui.
De l'Union européenne, bah oui. Alors, parce qu'on avait fait disparaître les distinctions qu'il y avait eu à une époque, vous savez, sur les montants compensatoires monétaires, les différences d'évaluation entre la lire et la... On a supprimé tout ça. On a fait l'euro, on n'a plus ces problèmes-là. Mais ça a été considérable au niveau des avantages procurés aux producteurs. Donc, aux agriculteurs, on est, je vous le dis.
Alors, ça va peut-être nous ramener à l'Europe à un moment, mais enfin, on va essayer de s'en écarter provisoirement. Les partis politiques, outre le fait que, bon, ils ont des élus, ils participent à la représentation nationale, à l'Assemblée nationale, on en dira peut-être deux mots à la fin, mais outre ça, quelle est leur action? Je veux dire, est-ce que le fait d'être militant, ça sert à quelque chose? Est-ce que ça transforme le militant lui-même? Est-ce que ça l'amène à être influent et à faire passer ses idées? Quelle est l'utilité et l'action des partis politiques, Monsieur Canal?
Bon, écoutez, moi-même, si j'ai adhéré au mouvement démocrate, d'ailleurs j'ai adhéré en 2007, c'est plutôt plus récent. J'avais une carrière antérieurement qui était plutôt une carrière de syndicaliste. J'étais pas engagé nécessairement politiquement. Mais je pense qu'au bout d'un moment, on a besoin, quelque part, lorsque l'on souhaite, améliorer la vie de tous les jours dans la cité, c'est un besoin que l'on peut éprouver personnel et qui est assez louable, hein, d'améliorer la situation de ses camarades ou des gens avec qui on vit. Et je pense que, quelque part, la politique a une influence. Et les décisions politiques qui sont prises, elles ont une influence sur la vie de tous les jours des gens. Donc c'est cette motivation que nous avons, me semble-t-il, quand on est adhérent à un parti politique. Ce qu'on peut aujourd'hui reprocher, justement, c'est qu'il n'y a pas assez d'adhérents dans les partis politiques, puisque il y a une perte les statistiques le disent, enfin les journalistes le savent mieux que moi, il y a une baisse de nombre de militants dans les partis politiques, comme il y en a une baisse dans les syndicats. Le monde devient assez individualiste. Or, on a besoin de vivre en collectivité. Et la façon de vivre en collectivité, ben, je pense que, quelque part, on doit la retrouver et apporter des solutions dans les partis politiques. Et chacun peut amener ses contributions. Et après, nous souhaitons qu'elles soient remontées au niveau national et qu'elles se transforment en élections avec des représentants à l'Assemblée nationale, entre autres.
Sur le local aussi. Que faites-vous pour avoir des militants, et que faites-vous pour vos militants?
Monsieur Devezin, permettez-moi tout d'abord de féliciter, quels que soient les partis, tous les militants, tous les cadres et tous les élus. C'est un investissement de tous les jours, et même si nous ne sommes pas d'accord sur le fond, sur la forme et sur les idées, je connais assez le travail de militants et de responsables politiques dans un département pour savoir l'investissement et le temps que ça prend. Donc, quel que soit le parti, je tiens à féliciter tout le monde. Effectivement, aujourd'hui, les vieux partis, le vieux monde ne fait plus rêver personne. Nous, au niveau du Rassemblement National, aujourd'hui, je vais vous donner un petit secret, et j'étais dans la presse il n'y a pas très longtemps, c'est 66 adhérents depuis le mois de septembre, de nouveaux adhérents. Pourquoi ? Alors, je vais parler de l'Aveyron en lui-même. Je dis souvent à mes adhérents que ce que nous faisons est plus grand que nous. Et si demain, vous poussez la porte d'un parti politique et du Rassemblement National avec le fait de prendre une carte d'adhérent, de mettre de l'argent, de rencontrer ses responsables de section, de circonscription et ses responsables départementaux, c'est qu'on est convaincu, hein. Et le seul problème aujourd'hui de ces vieux partis, c'est que c'était de l'entre-soi et que chaque fois que quelqu'un voulait rentrer et voulait s'investir un maximum dans ces partis, je vous dirais que la baronnie en place avait peur des jeunes loups aux dents longues. Et c'est pas le cas dans les nouveaux partis. C'était le cas chez Macron, on va pas le nier. C'est le cas au Rassemblement National où tout le monde a sa place. Et surtout, ça fait plus rêver. C'est-à-dire que la politique à la papa d'auparavant ne fait plus rêver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique se fait sur les réseaux sociaux et se fait au plus près de la population. Je le vois en Aveyron, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une exposition médiatique que nous n'avions pas auparavant. Moi, quand je suis arrivé dans le mouvement en 2012, je ne vais pas cracher dans la soupe, on était dans la presse que pendant les élections. Aujourd'hui, on nous voit constamment. On fait des réunions, nous sommes dans la presse, nous sommes ici devant vous à la radio. Et effectivement, ça donnera peut-être envie à des gens de nous rejoindre pour porter nos idées justement au pouvoir. Et on a vu que ça fonctionne, puisque alors je dis pas que les médias nous ont mis des bâtons dans les roues, mais nous n'avions pas d'élus, nous n'avions pas de leader, nous n'avions pas de visibilité. Nous étions à 3-4% en 2012. Aujourd'hui, le Rassemblement National, aux dernières présidentielles, est fini deuxième mouvement dans l'Aveyron. Deuxième mouvement. C'est-à-dire que Marine Le Pen dans tout l'Aveyron a fait plus de 24%, ce qui est quand même assez énorme. La raison est très simple, c'est qu'on va voir les gens. C'est-à-dire qu'on ne reste pas derrière, dans un bunker, à attendre que les gens viennent. On rencontre les gens, mais les vrais gens, pas les gens, les vrais gens, ceux qui souffrent et ceux qui ont besoin de nous. Et la raison est là, simplement pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça fonctionnera encore.
Alors au MoDem, on va peut-être me donner une idée d'une organisation et de ce qu'on fait pour les militants, des relations qu'on peut avoir avec les élus, voire avec les députés, et puis des formations aussi. Normalement, il y a des universités.
Et moi, je rentre de l'université du MoDem à Guidel, qui était le week-end dernier. Nous étions 5 représentants de l'Aveyron. Enfin, c'est loin Guidel, en Bretagne, mais enfin, nous avons eu un congrès, enfin, une université de rentrée extrêmement intéressante, où on a pu échanger avec les ministres du gouvernement actuel, avec les députés de notre mouvement. C'est une ouverture extrêmement importante. Nous avons pu participer à l'élaboration des programmes. Aujourd'hui, effectivement, sur Internet, on peut avoir l'accès en direct à Guaradem pour que les gens puissent faire des propositions. Donc on essaye d'être attentif aux nouvelles demandes des gens par les nouveaux moyens de communication aussi, hein, par Internet et les relations des réseaux sociaux, comme vous disiez. Donc, on est en relation avec les ministres de notre mouvement. J'ai été, il n'y a pas très longtemps, j'ai pu discuter une heure avec Marc Fesneau, notre ministre de l'Agriculture, avec qui nous avons échangé sur le fond, sur la politique et aveyronnaise et sur la politique agricole. Donc, je veux dire, en tant que militant de base, on arrive à avoir des rencontres avec des gens qui, aujourd'hui, ont le pouvoir et peuvent influencer le cours des choses. Donc,
et avez-vous le sentiment de les influencer, vous ?
Alors, certainement pas tout seul, hein, parce que c'est vraiment pas... on est une goutte d'eau mais on apporte notre pierre. Et dans l'organisation, on permet d'être les relais locaux lorsqu'il faut aller après au combat politique. Bon, effectivement... Alors, en Aveyron, ces dernières années, on l'a fait en association avec Renaissance. Donc, les élus qui nous ont représentés étaient de La République En Marche, mais nous les avons soutenus dans la mesure où nous n'avions pas de propre candidat.
Bon, ça, c'est je me trompe décisions. Ou ça va être un peu différent, peut-être, dans l'avenir ?
Écoutez, on espère toujours que l'Aveyron mériterait d'avoir un élu MoDem, au moins sur 3.
Bon, ça a été le cas pendant longtemps, Rodez.
Mais, voilà. Et effectivement, bon, on est quand même un petit peu les héritiers de Jean Briane, qui est resté un moment député de l'Aveyron. Hein. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc, si vous voulez... effectivement, lorsqu'on fait le bilan du résultat des dernières élections, on s'aperçoit que l'Aveyron est centriste. L'Aveyron n'est pas à droite. Alors même si le Front National...
N'est plus à droite. N'est plus à droite.
Et peut-être il est centriste. Il s'est découvert centriste. Et même le président du conseil départemental... Il va basculer, je n'en sais rien.
Il va bientôt basculer chez vous, effectivement.
Écoutez, je n'en sais rien.
Il a dit dans la presse, hein, non, mais il avait quitté les LR. Donc,
Oui, mais je pense qu'il faut en retirer les résultats des élections. C'est que l'Aveyron est centriste. Bon, sauf sur la circonscription de West Aveyron, où c'est la NUP qui...
Alors, je pense qu'on a fait le tour de la question.
Alors, je vais quand même répondre ce que nous avons fait avec nos élus, c'est-à-dire que en 2022, le programme de Marine Le Pen vient de la base, c'est-à-dire qu'on n'avait pas une verticalité qui venait du haut et qui est descendue vers nos électeurs. On avait demandé à nos responsables départementaux dans toute la France d'aller pendant 5 ans, suite en 2017, où on a beaucoup appris, hein, d'aller à la rencontre de nos concitoyens pour apporter les idées du bas, vraiment les idées de la base. Et quand vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'on a été capable d'influencer, ce qui ressortait derrière de nos militants dans toute la France, effectivement, c'est le pouvoir d'achat. Et on avait raison dès le départ. Et Marine Le Pen a fait une campagne essentiellement sur le pouvoir d'achat en 2022. Et on se rend compte qu'on avait totalement raison. Mais le programme de Marine Le Pen venait de la base, des militants de toute la France.
Alors, je pense qu'on a fait le tour sur l'organisation, l'utilité, le fonctionnement des partis politiques, du moins des deux qui sont autour de la table. Et le deuxième sujet que nous avions envisagé, et je dois dire que quand je l'ai envisagé, c'était un sujet général, et il me semble qu'il est devenu d'une actualité brûlante, c'était la répartition des profits. Comment doit-on répartir les profits ? Est-ce que c'est l'impôt qui doit les écréter ? Est-ce qu'on doit les distribuer à la source ? Est-ce qu'on doit les redistribuer par des allocations ? Et on voit en ce moment, avec la crise du carburant qu'on subit tous, et on voit une grève chez les fabricants de carburant, une grève par des gens qui disent « on veut notre part des profits ». Je ne suis pas sûr qu'ils aient, eux, beaucoup participé à ces profits. Je ne suis pas sûr non plus même que ces profits soient légitimes. Mais enfin, ça, c'est à vous de donner votre point de vue là-dessus. Monsieur Cazal.
Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu un cas particulier. Hein. C'est quand même les conséquences de la guerre en Ukraine, ce qui se passe. La raréfaction, non mais les coûts. Du pétrole qui augmente, etc. Bon, je ne parle pas des grèves, mais de comment dire, ce qui s'est passé au niveau général de la crise économique actuellement, qui déclenche des mouvements sociaux, mais c'est l'inflation quand même qui est à la base. C'est quelques chiffres qui sont en augmentation cette année, puisqu'on n'avait pas connu d'inflation depuis... de très nombreuses années. Donc, c'est une situation particulière. C'est quand même, il faut bien le dire, l'inflation, elle est surtout due à cette crise de l'énergie.
Mmh. Pourquoi ? On en revient à l'Europe. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous sommes plus souverains aujourd'hui au niveau de notre énergie, et que si derrière le gaz augmente, nos produits pétroliers, notre électricité augmente, parce que derrière on a un consortium européen. Nous serions indépendants énergétiquement. Vous dites, nous n'aurions pas ces mêmes problèmes. Et puis derrière, n'oublions pas que derrière, on met la TVA sur la taxe, qu'on taxe et qu'on taxe. Total, aujourd'hui, on est totalement en soutien avec les salariés, je vais vous dire. Au niveau du Rassemblement National, il n'y a pas à cracher dans la soupe. Le problème, c'est qu'une organisation syndicale qui est en train de bloquer le pays aujourd'hui, qui n'a pas voulu se mettre à table. Alors, pour quelqu'un qui est un européiste convaincu comme vous, moi, j'aime bien les négociations à l'allemande. Vous savez, les négociations syndicales à l'Allemagne. Une fois par an, ils se rencontrent, ils mettent tout à plat, et après, derrière, ça bosse. Aujourd'hui, une minorité, et une fois de plus, hein, la CGT, les syndicalistes, sont en train de bloquer le pays. Bientôt, on ne sait pas comment on va y travailler. Je regardais les informations ce midi. On n'est même plus capable d'aller faire livrer des produits frais dans les magasins. Simplement parce qu'on n'a pas réussi à se mettre autour de la table, et simplement parce qu'il y a une poignée de zozos aujourd'hui qui ont décidé, qui ont perdu les élections présidentielles, qui ont perdu les élections législatives et qui ont décidé de foutre le bordel dans la rue.
Oui, enfin, on est en démocratie. Il faut respecter. Il y a le droit de grève.
C'est vrai, c'est pour ça que votre président là, il va envoyer derrière les CRS pour débloquer tout ça.
Non, c'est pas ça.
Il va respecter le droit de grève, oui.
Non, mais bon, d'abord, c'est la première ministre qui est chargée de faire le boulot et de faire des réquisitions pour, effectivement, pour pas que ce soit la chienlit complète.
Ah bah c'est déjà la chienlit.
Non, il ne faut pas dire ça. Moi, j'ai connu mes 68.
Hein. Mmh. En mai 68, les prioritaires avaient du carburant.
J'étais. Comment ?
En mai 68, les prioritaires avaient du carburant.
Non, aujourd'hui.
Oui, non, mais c'est pour ça qu'ils sont bien obligés d'intervenir pour que les prioritaires aient du carburant. On comprend bien que.
Et l'artisan lambda, tout ça.
On dit c'est souvent, pas pour ça qu'il faut les accuser d'être en plusieurs degrés.
Et vous citez De Gaulle avec la chienlit, on dit souvent que gouverner, c'est prévoir. J'ai l'impression qu'on navigue à vue aujourd'hui avec ce gouvernement. Mais pour tout, non, alors, pour l'énergie.
Pour l'énergie, tout. Je m'excuse, mais le pétrole, on n'en a pas. Hein. Vous rappelez, le pétrole, on a
ni pétrole ni gaz. Le seul problème aujourd'hui, monsieur. On a beau faire aujourd'hui, les saintes n'y touchent, hein, je vous assure.
Donc on est obligé de l'importer.
Alors oui, mais le pétrole qu'on achète en Inde ou qu'on achète à l'étranger, c'est du pétrole russe, hein, que les Indiens nous vendent plus cher, hein, faut pas se le cacher.
On a la chance d'avoir une société française qui s'appelle Total et qui fait ce métier-là. qui permet de nous ravitailler en carburant. Bon,
oui, d'accord. Mais il faut quand même que ça sorte des raffineries maintenant.
J'ai eu le tort de, en actualisant la question de la répartition des profits, j'ai eu le tort de vous orienter vers l'actualité. Eh oui. C'était d'actualité, mais j'aimerais bien qu'on prenne un peu d'altitude, d'autant que il n'y a pas d'histoire, que ce soit le MoDem ou le Rassemblement National, sur la répartition des profits, vous avez des choses à nous dire.
Totalement différent, bien sûr qu'il faut taxer aujourd'hui les super profits. Il y a un projet de loi qui avait été mis par notre groupe au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut aujourd'hui taxer, c'est-à-dire que c'est toujours les petits qui sont tapés. Il y a eu un projet de loi qui a été proposé par nous et par la France Insoumise. Pour une fois qu'on était d'accord sur quelque chose, je vous dirais que ça n'a pas abouti. Hein. C'était lors de la première session, ça n'a pas abouti. Et surtout derrière, il va falloir rendre du pouvoir d'achat.
La première session, quand ça ?
La première session parlementaire qui a eu lieu en juillet ou en août, si mes souvenirs sont bons. Au mois d'août, pardon. Et puis derrière, si aujourd'hui, alors, on n'est pas aujourd'hui des gauchistes révolutionnaires qui voulons prendre un maximum d'impôts aux riches.
Qui ont fait une motion avec vous.
Attendez, non, on n'est pas des gauchistes révolutionnaires qui veulent prendre de l'argent aux riches. Mais aujourd'hui, il faut quand même faire un choix. Les Français aujourd'hui sont dans des situations catastrophiques. Aussi bien au niveau de l'énergie, ben effectivement, on parlait tout à l'heure du gaz, mais l'électricité qui va augmenter. Il y a un pouvoir d'achat aujourd'hui qui est très très en berne. Et le fait de pouvoir trouver de l'argent derrière, on avait fait quelques propositions, baisser la TVA de 20% à 5,5%, mettre une TVA à 0% sur les 100 premiers produits nécessités. Tout cela, fallait le financer, effectivement. Et on le finançait justement avec les super profits qu'on avait sur certaines entreprises. N'oublions pas que Total ne paye pas à 100% ses impôts en France non plus. Alors que c'est une entreprise française.
Il ne fait pas non plus son chiffre. Il
a son siège social en France.
Oui, mais c'est pas parce qu'il mais c'est tout à son honneur. En plus, donc,
Il faut défendre les grands groupes, mais il faut aussi qu'ils soient solidaires quand la France a besoin. Il a distribué des millions d'euros à ses actionnaires, alors que nous, aujourd'hui, on paye 2 euros notre litre d'essence.
Je crois savoir qu'ils viennent de faire une ristourne sur les...
30 centimes, c'est l'État qui paye, non ?
Tout le monde.
L'État et 30 centimes, lui. Ça veut dire qu'on payait notre carburant trop cher et qu'ils nous prenaient pour des cons depuis des années.
Non, mais là, c'est pas pareil.
Si je peux me permettre.
Écoutez, là, c'est un problème d'impôt. D'imposition, puisque sur le carburant, vous savez bien, c'est des taxes indirectes. On paye des...
Et plus une TVA sur les taxes.
Oui,
je sais. En plus derrière, donc...
Je suis bien d'accord. Mais bon, ça fait partie des recettes de l'État. Dans la mesure où on ne veut pas d'impôts directs, les gens, les Français, ils sont comme ça, ils veulent pas... En ce moment, personne ne veut être imposé. On veut des services publics, mais on veut pas d'impôts. Les entreprises, elles payent leur part d'impôts, les individus aussi. Il y a une règle qui a été déterminée par le vote au Parlement, et le budget est chargé d'encaisser des recettes. On est en plein dedans. Et ce qu'il y a de bien cette fois, c'est qu'on est à la proportionnelle.
Quasiment, oui.
Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un sujet que j'avais oublié d'avoir tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est défendu par le MoDem.
Et par le Rassemblement National.
C'est d'avoir des débats à la proportionnelle à l'Assemblée nationale pour prendre les décisions, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur la façon de faire. Mais par contre...
Vous voulez dire d'avoir une candidature avec une liste nationale proportionnelle.
Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'on est en ce moment, puisque même la majorité, le président de la République a une majorité relative, on se trouve dans la situation... d'une Assemblée nationale quasiment élue à la proportionnelle. Donc, personne dans la majorité à lui tout seul, dans aucun parti. Donc, il faut composer. Et ça nous apprend à partager nos points de vue et à essayer après de prendre la meilleure décision. Et c'est ce qui est en train de se passer, je pense. Le gouvernement, ça lui complique la tâche. C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile que lorsqu'il avait une majorité.
Tout à fait. D'où l'importance des partis politiques pour remettre le débat ensemble.
Oui, et surtout,
redonner envie aux Français d'aller voter. Vous imaginez l'Aveyron qui était un département qui était montré du doigt parce que c'était le département qui votait le mieux en France. On est tombé aux législatives à 50% d'abstention.
Oui,
on les fait plus rêver. Ils nous entendent plus.
Ben oui, non, mais
ils nous entendent plus. Vous les avez tellement trahis qu'ils ne croient plus en la politique.
Mais moi je suis pour rien. Moi je m'estime
votre
pas.
Votre mouvement, puisque vous avez eu bien avant...
Vous avez dit tout à l'heure que vous les faisiez rêver.
Alors nous, on les fait rêver.
Ouais.
Aujourd'hui, on les fait plus. Le modem, je ne sais pas qui ça fait rêver, je vous dirais. Hein.
Bah, peut-être.
Et ouais. Le orange, hein. Tiens. Et... je vous taquine, bien évidemment. Non, 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 mais 50% d'abstention. Donc, effectivement, en temps de crise aujourd'hui, il faut récupérer à la source les impôts, les super profits des entreprises et les redistribuer aujourd'hui dans la société. Donc, on a fait quelques propositions durant ces présidentielles, on a fait des propositions de loi à l'Assemblée nationale. Je parle de la TVA aujourd'hui sur le carburant de 20 à 5,5%, des 100 produits de première nécessité. On est d'accord. Il y en a plein d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rendons leur argent aux Français. C'est-à-dire, et ayons surtout une meilleure répartition des impôts. Et c'est ça le plus important. Parce que...
Moi, je suis assez partisan d'avoir un impôt progressif, davantage que ce qu'il est aujourd'hui au niveau individuel.
Mmh.
Bon, l'impôt sur les sociétés, sur les entreprises... Il ne faut pas trop les augmenter, parce que les entreprises, on en a besoin. C'est elles qui créent les emplois.
On est d'accord.
Donc, on ne peut pas écraser non plus les entreprises.
Ils sont déjà bien écrasés, hein, je vais vous rassurer. Hein. Une fois qu'on a tout payé, il ne reste plus rien.
Non,
mais... Il reste justement des profits à répartir.
Il reste
des... en impôts
des profits.
Ou à restituer aux clients, non, mais... après tout.
Ah, oui, oui, aussi.
Si on veut sortir des règles... habituelle et démocratique d'imposition des entreprises, etc. Quand on fait des, on peut aussi nationaliser Total.
Mitterrand sort de ce
par exemple. Et vous avez vu les résultats.
On
en est sortis, donc c'est pas possible. Donc on sait bien que c'est pas une bonne solution. Ouais, nous on n'est pas partisans.
Non, mais il faut protéger nos entreprises. On a des fleurons qui sont partis, vendus par Macron, qui sont partis. Je pense à Alstom, par exemple. Et tous ces fleurons, c'est. Non, mais je pense. Alstom me vient à l'esprit.
Oui.
Aujourd'hui.
Je pense qu'on a une responsabilité collective. De dire Macron, c'est stupide. Parce
moi, j'ai pas cette responsabilité. Et mon mouvement non plus. Je vous rassure de suite.
En tant que chef d'entreprise, je veux dire.
En tant que chef d'entreprise Que j'ai vendu Alstom
Par rapport à Alstom, non, mais...
Des impôts, j'en paye assez. Hein. Qu'ils soient bien utilisés et surtout qu'ils soient rendus aux Français. C'est-à-dire qu'on demande toujours aux Français de faire des efforts, de serrer la ceinture et derrière, il y a des gens qui s'en mettent plein les poches.
On est obligé, on veut des services publics. Si on les veut, il faut les payer, il faut les financer. Et ça ne peut être...
Par l'impôt. On est totalement d'accord.
Bon. Après, c'est la répartition
des
impôts.
Il y a de moins en moins de services publics.
Et la justice.
Il y a de moins en moins de services publics. Et l'Aveyron, on est exemple même.
Moi, j'étais pour l'ISF pour que. Excepté le capital qui sert pour les entreprises. Ça ne sert à rien de les taxer. Mmh. Le capital des entreprises, mais tout le reste.
Les patrimoines immobiliers.
Les super profits financiers, moi, je suis pour les.
Et le patrimoine immobilier également.
Moi, je suis pour les taxer. Hein. À l'ISF, ça permettait... Le patrimoine
immobilier, vous rejoignez notre président de la République. Là.
Alors, c'est peut-être... Oui, non, mais bien sûr. Mais quand certaines personnes aujourd'hui se héritent d'une demeure familiale, je pense souvent à La Rochelle, les trois quarts du temps, c'est un jeune couple ou quoi que ce soit, n'a pas les moyens de payer ses frais de succession et est obligé de vendre la maison familiale.
On sait que c'est très impopulaire.
Il y a tellement de choses à faire au niveau de ces successions que... mais il y a tout à remettre en place hein, et vivement qu'on arrive en 2027.
Je ne sais pas, parce que les droits de succession, les Français ne tiennent pas à ce qu'on les modifie. Hein.
Bien, je pense qu'on est arrivé au terme de nos débats. C'était donc la reprise de Table Ovale sans ellipse, et il n'y en a pas eu. Et autour de la Table Ovale était aujourd'hui Bruno Leleu pour le Rassemblement National, Bernard Cazal pour le Modem, et comme d'habitude, c'était régulé par Claude Devezin. Et la prochaine fois, ce sera à Villefranche-de-Rouergue. Nous étions à Rodez, ce sera le mois prochain à Villefranche-de-Rouergue. Merci.
Merci.
Merci.